place au cher pasteur. Voilà, tu m'as mis un peu la pression, hein, Daniel. J'espère que la prédication vaudra plus que deux sous. Et donc, ce matin, il fait bon, il fait chaud. Ça n'a pas été le cas des dimanches passés. Alors, c'est pas parce qu'on fait des restrictions budgétaires, hein. On n'a pas décidé d'économiser sur le chauffage. Mais on a des petites difficultés de programmation et de réglage. Et à fur et à mesure que les techniciens viennent pour régler la chaudière, c'est de plus en plus pire. Oh ben, au moins, il fait chaud. Hein. C'est bien. Voilà, je suis un petit peu pris, hein. J'ai un peu la crève, donc j'espère que l'enregistrement ne fera pas peur aux auditeurs. Je vais demander si quelqu'un voudra assurer la lecture du texte tout à l'heure. J'ai un texte assez fourni ce matin, il fait à peu près 33 versets. Donc voilà, si quelqu'un se sent pour lire, je vais l'inviter à s'avancer tout à l'heure pour venir faire la lecture. On va poursuivre, on est dans 1 Corinthiens au chapitre 14, page 238 dans la Bible rouge qui a eu un immense succès ce matin. Voilà, on a déjà vu 1 Corinthiens chapitre 14. On a déjà vu les deux chapitres précédents qui semblent être comme une introduction ou une base, un fondement à ce que... au problème auquel va s'attaquer maintenant Paul et qui a l'air d'être aigu dans l'église de Corinthe. Paul vient d'exposer les règles générales concernant les dons et il va maintenant traiter de la situation particulière de l'église de Corinthe. De toute évidence, il y a besoin de rétablir le bon ordre dans cette communauté où chacun semble vouloir en mettre plein les yeux aux autres pour démontrer sa spiritualité supérieure. Alors je voudrais quand même rappeler l'environnement culturel et cultuel païen des chrétiens de Corinthe. Je ne vais pas le revenir en détail, je voudrais juste qu'on s'en souvienne hein, dans ce qui va suivre. Alors, comme on peut le constater, l'environnement culturel et cultuel peut fausser notre spiritualité en mettant en avant des dons qui, finalement, ne sont pas les meilleurs pour l'édification de l'Église ou pour le salut des perdus. Alors, le texte que nous abordons ce matin, plus que tous les autres, a donné lieu à d'interminables et parfois grave controverse entre chrétiens de tous bords. Et ce texte a souvent été particulièrement malmené. J'ai lu chez un commentateur que certains n'hésitent pas à arracher des lambeaux de phrases de son contexte pour soutenir leur point de vue. Alors j'espère que c'est pas ce que je vais faire ce matin. Et j'espère qu'on va avoir ensemble une fois de plus, une lecture paisible, conduite par le Saint-Esprit de ce texte ce matin. Je voudrais vous proposer qu'au travers de ce texte, Paul nous montre que Dieu se manifeste de manière ordonnée et efficace. Est-ce que quelqu'un veut nous en faire la lecture? Ah, déjà quelqu'un est levé, peu importe, approche-toi. En voilà deux. À deux voix, peu importe. Hein. Voilà, bien. Approche-toi pour nous en faire la lecture. Alors, tu vas lire du verset 1 jusqu'à la moitié du verset 33. Jusqu'à la paix.
D'accord.
Voilà, c'est un assez long passage. Merci pour
si
ton
je laisse mes lunettes ou si je les enlève. Ouais. La vue, c'est terrible. Hein. Je vais les enlever, c'est mieux. Alors. Ainsi, recherchez avant tout l'amour, aspirez en outre aux manifestations de l'esprit et surtout à prophétiser. Celui qui parle dans une langue inconnue s'adresse à Dieu et non aux hommes. Personne ne comprend les paroles mystérieuses qu'il prononce sous l'inspiration de l'esprit. Mais celui qui prophétise aide les autres à grandir dans la foi, les encourage et les réconforte. Celui qui parle dans une langue inconnue ne se fait du bien qu'à lui-même. Mais celui qui prophétise permet à toute l'assemblée de grandir dans la foi. Je veux bien que vous sachiez tous parler dans des langues inconnues, mais je préférerais que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus utile que celui qui s'exprime dans une langue inconnue, sauf si quelqu'un traduit ce dernier pour que l'Église puisse grandir dans la foi. Supposez, frères et sœurs, que je vienne chez vous et que je m'exprime exclusivement dans ces langues inconnues, sans vous apporter aucune révélation, aucune connaissance nouvelle, aucune prophétie, aucun enseignement. Quel profit tirez-vous de ma présence ? Voyez ce qui se passe pour des Voyez ce qui se passe pour des instruments de musique, comme la flûte ou la harpe. Comment reconnaîtra-t-on la mélodie jouée sur l'un ou l'autre de ces instruments s'ils ne rendent pas de son distinct ? Et qui se préparera pour la bataille si le signal que donne la trompette n'est pas parfaitement clair ? Il en va de même pour vous. Comment saura-t-on ce que vous vouliez dire si, en utilisant ces langues inconnues, vous ne prononcez que des paroles inintelligibles, vous parlerez en l'air. Il existe dans le monde un grand nombre de langues différentes, dont aucune n'est dépourvue de sens. Mais si j'ignore le sens des mots utilisés par mon interlocuteur, je serai un étranger pour lui, et lui de même le sera pour moi. Vous donc, puisque vous aspirez si ardemment aux manifestations de l'Esprit, recherchez avant tout à posséder en abondance celles qui contribuent à faire grandir l'Église dans la foi. C'est pourquoi celui qui parle en langues inconnues doit demander à Dieu de lui donner de traduire ce qu'il dit en langage compréhensible. Car si je prie en langues inconnues, mon esprit est en prière, mais mon intelligence n'intervient pas. Que ferai-je donc ? Je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai les louanges de Dieu avec mon esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. Autrement, si tu remercies le Seigneur uniquement avec ton esprit, comment l'auditeur non averti, assis dans l'assemblée, pourra-t-il répondre « Amen » à ta prière de reconnaissance, puisqu'il ne comprend pas ce que tu dis ? Ta prière de reconnaissance a beau être sublime, l'autre ne grandit pas dans sa foi. Je remercie Dieu de ce que je parle en langues inconnues plus que vous tous. Cependant, lors des réunions de l'Église, je préfère dire seulement 5 paroles compréhensibles pour instruire aussi les autres plutôt que 10 000 mots dans une langue inconnue. Frères et sœurs, ne soyez pas des enfants dans votre façon de juger des choses pour le mal. Soyez de petits enfants, mais dans le domaine du jugement, montrez-vous adultes. Il est dit dans l'Écriture : Je parlerai à ce peuple dans une langue étrangère par des lèvres d'étrangers, et même alors, ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. Ainsi, les paroles en langues inconnues sont un signe de Dieu, non pour les croyants, mais ceux qui ne croient pas. Les prophéties, elles, sont un signe, non pour les incroyants, mais pour ceux qui croient. En effet, imaginez que l'Église se réunisse tout entière et que tous parlent en des langues inconnues. Si des personnes non averties ou des incroyants surviennent, ne diront-ils pas que vous avez perdu la raison ? Si, au contraire, tous prophétisent et qu'il entre un visiteur incroyant ou un homme quelconque, ne se trouvera-t-il pas repris par tous et exposé au jugement de tous ? Les secrets de son cœur seront mis à nu. Alors, il tombera sur sa face en adorant Dieu et s'écriera « Certainement, Dieu est présent au milieu de vous. » Comment donc agir, frères et sœurs ? Lorsque vous vous réunissez, l'un chantera un cantique, l'autre aura une parole d'enseignement, un autre une révélation. Celui-ci s'exprimera dans une langue inconnue. Celui-là en donnera l'interprétation, que tout cela serve à faire grandir l'Église dans la foi. Si on en parle dans des langues inconnues, que deux le fassent, ou tout au plus trois, et l'un après l'autre, et qu'il y ait quelqu'un pour traduire. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise plutôt que de parler dans une langue inconnue, dans l'assemblée, et qu'on se contente de parler à soi-même et à Dieu. Quant à ceux qui prophétisent, que 2 ou 3 prennent la parole, et que les autres jugent ce qu'ils disent. Si l'un des assistants reçoit une révélation pendant qu'un autre parle, celui qui a la parole doit se taire. Ainsi, vous pouvez tous prophétiser à tour de rôle, afin que tous soient instruits et stimulés dans leur foi. Car les prophètes restent maîtres d'eux-mêmes. Dieu, en effet, n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix.
Merci Philippe pour ton aide. Dieu se manifeste d'une manière ordonnée et efficace. Et Paul nous donne d'abord ici la règle d'utilisation des dons. Et cette règle, c'est l'édification. L'édification de l'Église, l'édification commune. Paul semble mettre en opposition deux dons. En fait, ces deux dons sont probablement en opposition dans l'Église de Corinthe. Il y a une concurrence, hein, visiblement, entre ces deux dons. Le don de parler en langue et la prophétie. Parler en langue. Est-ce qu'il s'agit de glossolalie, ou autrement dit, de langues inconnues, ou est-ce qu'il s'agit de langues connues étrangères? Il n'est pas nécessaire de trancher, parce que le résultat est le même. C'est incompréhensible pour l'auditeur si lui manque la traduction ou l'interprétation. La prophétie, de quoi s'agit-il? Il s'agit de ne pas la confondre avec la prédiction. Et souvent on fait cette confusion, hein, et j'espère que vous sentez la nuance entre prophétie et prédiction. Alors, pour contrebalancer, on voudrait aujourd'hui circonscrire la prophétie à la prédication, en disant, bah, finalement, si tu prêches, si tu parles de la parole, ben tu prophétises. Mais comme j'ai déjà pu en témoigner dans ma propre vie, il arrive des moments où le Seigneur permet d'éclairer ou de donner des instructions ou d'ouvrir une fenêtre sur ce qu'il va accomplir dans le futur. Le sens biblique de la prophétie, c'est annoncer une parole venant de Dieu. Dans l'Ancien Testament, les prophètes étaient des hommes mandatés et envoyés par Dieu pour appliquer la loi, la parole, aux circonstances de leur contemporain. Et si vous lisez l'ensemble des prophètes, hein, des textes des prophètes qui nous sont parvenus, ben vous voyez ce qu'ils font. Ils dénoncent le péché, ils rappellent la loi. Ils rappellent les malédictions qui sont attachées à la désobéissance. Ils appellent le peuple à la repentance. Repentez-vous, détournez-vous de votre péché. Et rappelez-vous que Dieu veut vous bénir si vous obéissez à sa parole. Il y a aussi un exemple de prophète du Nouveau Testament qui s'appelle Jean-Baptiste. Le dernier est, selon Jésus-Christ, le plus grand des prophètes. Cet homme qui habitait dans le désert aux abords du Jourdain, qui était vêtu d'un vêtement de poils de chameau, qui se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Et donc, qu'est-ce qu'il... il ne se préoccupe pas. On voit que par sa manière de vivre, il ne se préoccupait pas de ce qui était commun dans la société de son époque. Mais il connaît la parole de Dieu. Il sait la communiquer et l'appliquer à ceux qui l'interrogent. Il sait l'appliquer à leur vie. Si vous lisez le texte, on voit qu'au péager, il leur demande de ne pas demander plus que ce qui est légal. Aux soldats, il leur demande de ne pas être violent, de n'accuser personne à tort et de se contenter de leur solde. À la foule, il demande de partager avec ceux qui n'ont rien et de se repentir de leurs péchés. Aux religieux, il dénonce leur hypocrisie. Au roi Hérode, il dénonce son péché avec la femme de son frère. Quel est le résultat de sa prédication? Les gens confessent leurs péchés et se font baptiser. Jean, lui-même, il est enfermé et exécuté. Mais ses paroles ont édifié, exhorté et consolé le peuple. Elles les ont aidés. Elles ont aidé les personnes à prendre des décisions opportunes, stimulent leur progrès, fortifient leurs convictions, les encouragent dans la bonne voie. Voilà le sens de la prophétie dans l'Écriture. Alors il faut se rappeler, quand on lit ce texte, que les Corinthiens n'étaient pas embarrassés par le choix de leur version de Bible. Ici, on lit dans la Bible rouge parce qu'on se dit, si tout le monde lit dans la même version, ça va être plus facile, c'est une version abordable, mais il en existe, en français, il en existe pléthore. Hein, on n'en achète pas 10 ou 12 différentes, hein, vient de s'ajouter la nouvelle français courant. Et donc, les Corinthiens n'avaient pas ce choix-là. En fait, ils n'avaient que l'Ancien Testament qui était disponible pour eux. Et encore, soit dans la version juive, en hébreu, soit en grec, qui était la version probablement la plus commune à cette époque. C'est celle, en tout cas, que citent Jésus et les apôtres. Alors, comment se faisait l'enseignement dans l'Église s'il n'y avait pas le Nouveau Testament, s'il n'y avait que l'Ancien? Alors, ils avaient évidemment la lecture, hein, de ce texte de l'Ancien Testament, mais ils bénéficiaient aussi de la visite de frères et de sœurs. On a par exemple, on voit que Timothée, Tite, Apollos circulent dans les églises. On voit que Paul, d'abord avec Barnabas, puis avec Silas, font le tour des églises. Il y a eu tout de suite après les apôtres un livre qui a été écrit qui s'appelait le Didache, pardon, j'ai un peu de mal à prononcer, hein, ma voix, bon, qui était un livre d'enseignement et de prescription qui aidait les églises à savoir comment se comporter. Notamment, il y avait des mises en garde concernant ces gens qui circulaient dans les églises et disaient, s'il reste plus que 3 jours, c'est un fainéant, ne le nourrissez plus. Mais il y avait aussi les apôtres. Il y avait des lettres, hein, comme celles que Paul écrit aux Corinthiens. Et puis, il y avait des dons dans l'église, comme la prophétie, la parole de sagesse, les paroles de connaissance. Alors, en quoi la prophétie est-elle supérieure au parler en langue, selon Paul? Le problème des langues, c'est qu'elles sont inintelligibles, incompréhensibles pour l'auditeur. J'ai été touché l'autre jour des témoignages, hein, qui nous ont été apportés, et je pense qu'on devrait avoir plus de témoignages. Et notamment, le témoignage de Julia était touchant. Mais est-ce qu'il aurait été aussi touchant si elle nous avait parlé dans la langue du pays? Je ne sais pas si elle soit Élie, Julia. Oui? Qu'est-ce que j'aurais compris? Bon, peut-être 2-3, hein, auraient compris ce qu'elle dit, mais moi, qu'est-ce que j'aurais compris? Est-ce que j'aurais été touché? Est-ce que vous auriez été touché parce qu'elle vit avec le Seigneur? Certainement pas, hein. J'aurais pas compris les merveilles que Dieu est en train d'accomplir dans sa vie. Qui en aurait tiré bénéfice? Mais cela devient clair si elle parle la langue commune ou si c'est traduit. Alors, Paul prend ici l'exemple des instruments de musique. Et moi, je suis reconnaissant, hein, que c'est Nolwenn qui joue au piano et Denis à la guitare. Si c'était moi, on ne saurait pas quel cantique on chante, hein. C'est pareil avec la trompette. À l'époque, la légion romaine, les armées manœuvraient au son de la trompette, un petit peu comme dans les... Il y a peut-être des amateurs de western, hein, et quand vous regardez la charge héroïque... Quand John Wayne y commande au clairon, il lui dit voilà, sonne la charge, sonne la retraite, sonne le rassemblement, appelle les officiers, les sous-officiers, puis le clairon, et chacun sait ce qu'il doit faire. Mais si le son n'est pas clair, chacun va de son côté, et la bataille n'étant pas coordonnée, on a toutes les chances de la perdre. La classification que Paul fait des dons répond à un critère simple, et c'est celui de l'édification de l'Église. Car souvenons-nous que c'est dans ce but précis que Dieu accorde des dons aux croyants. C'est pour l'édification mutuelle. Alors, est-ce que tous doivent parler en langue? Je souhaite que tous parlent en langue, dit Paul ici. Est-ce que tous doivent parler en langue? Alors, je me souviens que quand j'étais à l'Institut biblique, on aimait bien jouer au foot. Alors, pas tout le temps, hein, mais le... mercredi après-midi, je pense, ouais, mercredi après-midi, c'était pour nous défouler, puis pour faire un peu de sport, hein, parce que passer de la salle de cours à l'étude dans nos chambres, voilà, on passait bien par la case service aspirateur vaisselle, mais ça, on se dépensait pas beaucoup physiquement, hein. Mais imaginons que nous ayons passé tout notre temps à jouer au foot. Le directeur, hein, Mike Evans, avec son humour britannique bien caustique, aurait certainement dit une phrase dans le genre: « Je désire que vous sachiez tous jouer brillamment au foot, mais encore plus, que vous sachiez comprendre et enseigner la Bible. Je pense que personne d'entre nous n'aurait compris qu'il nous encourage à envisager une carrière de footballeur. Nous aurions certainement compris que nous passions trop de temps à jouer au foot et pas assez de temps à travailler sur l'écriture et sur nos devoirs. Souvenons-nous que Paul souhaitait aussi que tous soient comme lui, non mariés. Relisez, 2 Corinthiens 7:7. Je voudrais que vous soyez tous comme moi, mais personne n'a compris. Enfin, il y a des exceptions, mais bon, personne n'a compris que les églises devaient être constituées de célibataires. Chacun reçoit de la part du Seigneur le don qui lui est particulier dans ce domaine. Et Paul s'empresse de dire qu'il parle en langue plus que tous. Alors, il n'est pas non plus motivé par la jalousie. Eux, ils parlent en langue et pas moi, donc je vais leur interdire de parler en langue. Non, non, je parle en langue plus que vous tous. Mais par des paroles simples et compréhensibles, il estimait que c'était plus avantageux pour chacun. Alors, la règle d'utilisation des dons, c'est l'édification et c'est le filtre, le critère que nous devons utiliser pour l'utilisation des dons, pour que la manifestation que Dieu donne dans l'Église soit ordonnée et efficace. Alors, quelle est la raison de la supériorité de certains dons? Paul poursuit, c'est le salut des incroyants. C'est un deuxième problème qui est posé par l'usage du don excessif du parler en langue. Le non-croyant sera rebuté et confirmé dans son incrédulité par le parler en langue qu'il entendra dans une rencontre chrétienne. Quand j'étais jeune, je travaillais dans un garage dans un quartier de Mulhouse. Et dans ce quartier, il y avait une église qui était de tendance plutôt charismatique. Et je discutais de ça avec mes collègues qui habitaient dans le quartier. Et ils m'ont dit, mais ça c'est une église de fous. Tu passes à côté, tu les entends brailler, crier tous ensemble, des choses incompréhensibles. Mais c'est des vrais fous, on va pas aller là. Et l'église s'est discréditée dans le quartier de cette manière-là. Et Paul le dit, les langues n'amènent pas l'incroyant à la foi. Dieu a utilisé ce signe des langues pour tenter de convaincre Israël à se repentir. Les langues sont un signe non pas pour les incroyants, mais pour les croyants, dit-il. Excusez-moi. Il utilise ces langues pour tenter de convaincre Israël à se repentir, mais ils ont persisté dans leur incrédulité. C'est le sens de la citation que Paul fait ici du prophète Ésaïe. Et vous remarquez que dans les évangiles, c'est aussi la raison pour laquelle Jésus s'est mis à parler en parabole. Je leur parle en parabole, de peur qu'ils ne comprennent et qu'ils se convertissent. Regardez en Marc 4, les versets 11 à 12. On ne peut pas s'empêcher de citer non plus la Pentecôte, où ceux qui comprenaient rien à ce que disaient les apôtres dans les différentes langues qui leur étaient données, ceux qui ne comprenaient rien, les calomniaient et disaient, ils sont ivres, ils ont trop bu dès le matin. Puisque les langues sont inintelligibles, les non-croyants ne reçoivent aucune révélation de la part de Dieu. Par conséquent, ils ne peuvent pas être amenés à la foi par leur réponse à la manifestation de l'Esprit qu'ils jugent comme une folie et qui les destine au jugement de Dieu. C'est une citation de Gordon Fee, un commentateur de l'Écriture. Dieu ne parle de manière inintelligible aux hommes que parce qu'ils sont fermés à sa révélation claire. Pour le témoignage envers les incroyants aussi, la prophétie se montre supérieure. Et nous sommes appelés à être intelligibles dans notre langage envers les incroyants. Et il y a d'autres manières pour être inintelligible que de parler une langue qu'ils ne connaissent pas. Imaginez que vous rencontriez demain, près de la machine à café, un collègue auquel vous voulez parler du Seigneur. Et vous lui dites la chose suivante, « Mon cher collègue, sais-tu que je suis racheté par Jésus-Christ? J'ai reçu la rédemption, je suis purifié par le sang de l'agneau. Tu sais, désormais, je suis assis dans les lieux célestes, j'ai reçu de la part de Dieu, un héritage incroyable, corruptible dans les cieux. Je suis devenu un enfant de Dieu, je suis héritier de sa gloire éternelle. Tu sais, tu devrais venir à l'église, tous tes problèmes disparaîtraient. Que croyez-vous qui se passerait Vous quitteriez simplement la machine à café, heureux d'avoir pu témoigner. Mais je pense que votre collègue, il a un problème supplémentaire. Il va se demander ce que vous avez bien voulu lui dire. Et notre jargon, notre patois de Canaan a besoin parfois d'être un petit peu éclairci, hein, pour que ce soit compréhensible par ceux qui nous entourent. Toutes ces vérités sont vraies. Et on se les dit entre nous et on peut s'en réjouir. Elles sont d'un contenu fantastique. Mais il faut les rendre abordables pour les personnes qui nous entourent. Parler d'une manière qui soit compréhensible, c'est la manifestation ordonnée et efficace de Dieu en faveur de ceux qui ne le connaissent pas. Et enfin, Paul trace le cadre d'utilisation des dons. Et le cadre d'utilisation des dons, pardon, c'est la paix de Dieu. Au désordre des cultes de l'église de Corinthe, Paul n'oppose pas une froide discipline ou un ordre divin inamovible. Il y oppose la paix de Dieu. Est-ce que vous avez remarqué cela? Et la paix de Dieu, propose Paul, elle passe par certaines règles toutes simples. Et la première de ces règles, c'est qu'il faut s'écouter les uns les autres. C'est le meilleur moyen de comprendre ce que l'autre, qui est inspiré par le Saint-Esprit, a à nous dire. Il y a là une question de respect mutuel, une notion de respect qui nous amène à respecter mon frère ou ma sœur, c'est respecter le Saint-Esprit. Ensuite, il est nécessaire d'évaluer ce que l'autre dit. Et cela renforce encore la nécessité de l'écoute attentive. Les révélations et les visions ne placent pas celui qui les reçoit au-dessus des autres. Ça me fait parfois un peu sourire quand je vois sur Internet des gens qui se donnent des titres ronflants. Prophète un tel, apôtre un tel. Alors, ça pose son bonhomme, n'est-ce pas, hein? Et ça met tous les autres d'équerre. Hein? Ça vous dit, voilà, moi je suis apôtre, prophète, moi j'ai une autorité qui ne souffre pas d'être remise en question. Elle est incontestable. Mais Paul nous dit quelque chose de différent ici. Si tu penses être inspiré par le Saint-Esprit, les autres sont appelés à juger la conformité de ce que tu apportes à la révélation de la parole de Dieu. Et j'espère sincèrement que c'est ce que vous êtes en train de faire alors que je parle. Est-ce que ce que Marc dit est conforme à la révélation de la parole de Dieu? Alors, qui sont ces autres? Qui est chargé de faire cela? Alors, cette responsabilité repose certainement sur les responsables reconnus par l'Église en premier lieu. Mais Paul, ici, en charge toute l'Église, toute l'Assemblée, les autres. Vous écoutez et vous percevez si c'est conforme à la révélation de la parole. Entre responsables, on a une espèce de deal entre nous. Hein. On se dit les uns les autres, s'il y a quelque chose qui ne va pas, on se le dit. Et je raconte parfois entre les responsables, je vous le dis à tous, que dans l'église où j'étais avant, un jour, j'ai dû interrompre la personne qui parlait. Il en a sorti une tellement, tellement grosse, avec tellement d'insistance, que j'ai dû me lever, lui dire, non, excuse-moi frère, mais ce que tu dis n'est pas conforme à ce que nous dit l'Écriture. Alors il n'était pas très content, hein. Mais je préfère que dans notre église, on dise ce que dit l'Écriture plutôt que l'avis de l'un ou de l'autre. Et on a cette responsabilité. Alors, ce n'est pas toujours grave, ce n'est pas toujours la peine d'interrompre le culte. Hein. Mais là, c'était grave et il fallait le faire. Mais on peut se le dire l'un à l'autre après le culte. Écoute, dans ta prédication quand même, voilà. Hein. Ou dans ce que tu as dit pour présenter la scène ou pour... voilà. On a dans l'Écriture des exemples qui nous montrent que c'est la bonne manière d'agir. Paul voulait évangéliser en Asie et puis il a eu une vision d'un Macédonien qui lui a dit « Viens vers nous, on a besoin d'entendre l'évangile. » Alors, je cite librement. Hein. Et il partage ça avec l'équipe qui est avec lui. Et on se rend compte que c'est toute l'équipe qui juge de cette vision et qui conclut que Dieu les appelle à annoncer l'évangile aux Macédoniens. Allez voir en acte 16. On a la même chose quand Paul et Barnabas sont appelés dans l'église d'Antioche où l'Esprit dit « Mettez-moi à part ». Alors les responsables, peut-être l'église, prennent un temps de jeûne et de prière pour vérifier si c'est vraiment le Saint-Esprit qui a parlé. Personne, pas même les apôtres, ne sont ipso facto exempts d'erreur. L'infaillibilité n'existe pas chez les humains. La parole est infaillible, Dieu est infaillible, mais pas nous. Et d'ailleurs, on le voit dans l'exemple de Pierre à Antioche, où Paul à Galate dit, dans l'épître aux Galates, dit « J'ai dû le reprendre devant tous, parce que sa manière d'agir n'était pas juste. » Et pourtant, Pierre était quand même un apôtre considérable, quelqu'un qu'ailleurs Paul considère comme une colonne dans l'Église. La paix de Dieu s'exprime dans l'acceptation et l'expression de tous les dons reçus dans l'Église avec ordre et bienséance. Alors, ne croyons pas que la situation particulière de l'Église de Corinthe dans un environnement païen extrême nous affranchisse de prendre cette exhortation de Paul au sérieux pour nous qui vivons dans la société post-moderne et post-chrétienne du 21e siècle. Nous aussi, nous sommes confrontés à cette tendance du chacun pour soi et du moi d'abord. Donc ça le crie fort actuellement. Hein? Nous avons besoin, chacun pour notre part, de reconsidérer l'enseignement de la parole concernant notre vie et notre contribution dans l'Église dans laquelle le Seigneur nous a placés. Nous avons besoin de réapprendre l'amour et la paix de Dieu. Pas dans le sens de ce que le monde nous enseigne, le peace and love ou le love and peace, mais dans le sens biblique de l'amour fraternel et de la paix de Dieu. Servir Dieu, c'est servir mes frères et sœurs dans un amour sincère et désintéressé, dans un esprit de paix. C'est chercher par tous les moyens que le Seigneur a mis à ma disposition à faire progresser le frère, la sœur que le Seigneur a placé auprès de moi, de faire progresser dans la connaissance et dans l'obéissance à la parole de Dieu et d'amener à cette obéissance celles et ceux qui autour de moi ne connaissent pas Dieu. C'est pourquoi Paul t'encourage solennellement, qui que tu sois, enfant racheté de Dieu, à mettre le ou les dons qui t'ont été confiés par Dieu au service de l'Église pour l'édification des frères et sœurs et pour le salut des perdus. Voilà le ministère d'amour et de paix que Dieu confie à chacune et chacun d'entre nous, afin que sa grâce se répande avec abondance sur nous toutes et tous, et sur toutes celles et ceux qui nous entourent. Que le Seigneur nous y aide et nous y encourage. Je vous invite à chanter ensemble « Tu es venu jusqu'à nous ».